France Inter, Marion Lourd, Ali Badou. Le 6-9.
Le débat écho du petit déjeuner du vendredi avec Thomas Porcher, Dominique Seux. Bonjour messieurs.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Les finances publiques et les déficits ont occupé une place centrale dans le débat public cette semaine, mais nous allons nous concentrer ce matin sur cette question toujours explosive et qui divise de la fiscalité. Faut-il augmenter les impôts et pourrons-nous y échapper? Le Premier ministre Gabriel Attal a largement fermé la porte, mais il l'a laissé tout de même entrebâiller sur certains sujets dont on va parler. Première question, apparemment simple, apparemment seulement, messieurs. Est-ce une bonne idée d'augmenter les impôts pour essayer de combler, de boucher les trous budgétaires? Et est-ce que c'est nécessaire, Thomas Porcher?
Oui, c'est nécessaire. À partir du moment où l'alpha et l'oméga de la politique économique du gouvernement, c'est de réduire les déficits, et que pour ça, il est prêt à aller chercher de l'argent chez les vieux avec la réforme des retraites, chez les malades avec des économies sur l'assurance maladie, ou chez les chômeurs avec l'énième réforme de l'assurance chômage, on ne peut pas faire abstraction de la recherche de recettes. Et vous savez, sous nos yeux, on a quand même tout un tas d'études et de travaux qui sont sortis et qui ont montré qu'il y avait chez les gens très très riches, et c'est les grandes entreprises, de l'évasion ou de l'optimisation fiscale. Moi, quand je vois que le CAC 40 a plus de 1000 filiales dans les paradis fiscaux, la première des choses, c'est que le gouvernement devrait leur demander ce qu'ils y font, et s'il n'y a pas de raison d'y être, peut-être leur retirer leurs aides, ce serait une bonne première chose.
Même question, Dominique Seux.
Nécessaire et une bonne idée. Écoutez, je suis toujours un petit peu surpris quand tous ceux qui nous expliquent qu'en fait, il n'est pas nécessaire de diminuer les déficits parce que ça n'est pas grave du tout, nous disent après, ah mais en fait, si, il faut quand même augmenter les impôts. Donc on comprend plus très bien, Thomas, il y a 3 semaines à ce micro, vous nous disiez, au fond, les déficits ne sont pas un problème. Donc ils sont un problème ou ils ne sont pas un problème.
J'ai dit si c'est l'alpha et l'oméga de la politique du gouvernement. D'accord, c'est pas la mienne.
Je vois parfois des petites contradictions. Non, ça n'est pas une bonne idée, ce sera peut-être nécessaire. C'est pas une bonne idée d'abord parce que on a un taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de tous les pays développés.
Rappelez-nous le chiffre.
Il a été 45,2% du produit intérieur brut, le plus élevé depuis, je ne sais pas si c'est le Moyen-Âge, mais en tout cas, hors temps de guerre, c'est évidemment le plus élevé. On sait que, par ailleurs, quand on augmente les... Ce débat sur les impôts, en fait, il obère le débat sur les réformes nécessaires, sur pourquoi la santé ne fonctionne pas très bien, pourquoi est-ce qu'on dépense beaucoup d'argent pour la politique du logement et manifestement c'est pas efficace. C'est ce débat-là qui est important et les débats sur les impôts, en fait, au final, ça ne rapporte pas grand-chose. Néanmoins, et on va y venir, sur un certain nombre de petits points précis,
oui, on va prendre faire des mesure corrections. Par mesure.
Évidemment, il n'est pas normal que si des entreprises du CAC 40 ont des filiales dans des paradis fiscaux, ce ne soit pas corrigé. Et évidemment, ça peut être corrigé.
On attend les propositions fiscales. Sans remonter au Moyen-Âge comme Dominique Thomas Porcher.
Oui, mais l'argument n'est pas entendable des prélèvements obligatoires. On serait numéro 1. Alors ça dépend déjà des statistiques. Parfois on est numéro 1, numéro 2. Bon, mais on est dans les plus élevés. Mais quand il y a des prélèvements obligatoires, quand il y a des impôts, derrière, il y a un service public qui est offert. Et quand on fait une comparaison qui se veut être une vraie comparaison, on regarde ce que l'on paye comme impôt et on regarde ce que l'on a comme offre de service public. Par exemple, on a une carte vitale en France, c'est la sécurité sociale qui nous permet d'être soigné gratuitement. C'est pas le cas dans tous les pays, c'est pas le cas aux États-Unis. Et si vous voulez faire une vraie comparaison, vous mettez le coût des assurances privées et là vous allez voir ce que c'est comme, parce que au final, on finit toujours par le payer, que ce soit public par les impôts, que ce soit privé en le sortant de votre poche. Je vous donne un petit chiffre qui est très intéressant.
Oui.
La dépense sociale privée, donc la dépense dans les assurances de santé et dans les retraites privées. En France, il est de 3,6% du PIB. Pourquoi ? Parce que nous avons des assurances publiques, parce que nous payons des impôts. Vous regardez aux Pays-Bas, à côté de chez nous, c'est à 13%. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils ne payent pas d'impôts, mais ils le sortent de leur poche. Vous regardez aux États-Unis, c'est à 12%. Donc vous finissez toujours par le payer. Donc la comparaison des prélèvements, c'est plutôt qu'est-ce que nous voulons ? Est-ce que nous voulons des dépenses publiques et donc des impôts à payer, et les Français visiblement sont attachés à leurs services publics. Il y a un sondage qui a montré que 7 Français sur 10 considèrent que le système de sécurité sociale est un bon système. Ou est-ce qu'on le veut de manière privée?
Dominique.
Non mais la question c'est, je ne suis pas d'accord avec Thomas Porcher. Si les Français étaient satisfaits de leurs services publics, il aurait raison. Mais nous avons des prélèvements obligatoires très élevés et par ailleurs qui financent des services publics. Mais par ailleurs, les Français ne sont pas très contents des services publics qui, dont la qualité est plus ou moins bonne.
Donc, alors remettons l'église au milieu du village.
On ne peut pas dire les deux choses en même temps.
C'est parce qu'il y a un débat fiscal qui ne doit pas virer à la cacophonie, messieurs.
Ils sont contents de la santé,
messieurs.
Du système de retraite.
Quand vous regardez les sondages BVA qui sont sortis, notamment beaucoup en 2020, en 2018-2019 après les mouvements des Gilets jaunes, les résultats des sondages montraient que les Français étaient attachés à leur système public. Et par exemple, le système de retraite, 80% étaient contre la réforme des retraites.
Alors, recadrons les termes du débat d'abord.
Les Français ne sont pas très contents du fonctionnement de leur service public.
D'accord, mais là on a un débat fiscal. Débat fiscal en l'occurrence, le Premier ministre a dit qu'il n'y avait pas de dogme, mais qu'il y avait des lignes rouges, et qu'en l'occurrence, ces lignes rouges, c'est refuser toute hausse d'impôts qui toucherait la classe moyenne ou les entreprises. Alors du coup, bon, Thomas Porchet, vous avez l'air dubitatif, mais Dominique, où est-ce qu'on va chercher des hausses d'impôts dans ces cas-là ?
Non mais moi je ne crois pas. Je le répète, je ne crois pas que la piste des hausses d'impôts soit une piste d'avenir.
Mais si elle est inévitable.
S'il y avait une hausse d'impôts, ça rapporterait mais quelques centaines de millions d'euros ou quelques milliards d'euros, c'est-à-dire très peu de choses par rapport à l'ampleur des difficultés. S'il y a des choses qui vont être sur la table, ça va être sur les rachats d'actions, par exemple, ça va être sur telle ou telle mesure très pointue. On n'aura pas
les
de hausse générale. Mais les
super
profits. Alors, c'est très drôle, l'affaire des super profits, parce que pourquoi il y a un déficit qui s'est creusé en 2023 ? Parce que l'impôt sur les sociétés a moins rapporté. Il a moins rapporté alors que les grandes entreprises ont fait des bénéfices records. C'est tout simplement parce que les bénéfices se font ailleurs. Donc si vous augmentez la taxation des bénéfices sur les grandes entreprises en France, ça ne changera quasiment rien, ou presque rien, ou rien du tout, sur les recettes fiscales de l'IS.
Thomas Porchet, quelle piste envisager ?
Alors, vous savez, quand vous regardez les baisses d'impôts qui ont été faites sous les deux quinquennats Macron, les baisses d'impôts seulement ciblées sur les plus riches et les entreprises. On est autour de 25 milliards, avec la baisse de l'IS, la flat tax, la première tranche de baisse d'impôts de production.
Ça a été efficace ?
Visiblement, selon les rapports commandés par le gouvernement, pas aussi efficace que ça. En tous les cas, sur l'ISS, ça ne s'est pas transformé en investissement et sur l'IS également. Et d'ailleurs, il y a une grande étude qui a été faite sur 18 pays de l'OCDE qui montrait que toutes les baisses d'impôts sur les plus riches et sur les grandes entreprises n'avaient pas engendré d'impact énorme sur le chômage et sur la croissance. Je finis là-dessus.
Oui.
Ces baisses d'impôts. Oui, mais vous savez, entre 2000 et 2010, c'était pas encore sous Macron, hein, vous avez eu 100 milliards de baisses d'impôts. 100 milliards entre 2000 et 2010, c'est ce que révèle un rapport parlementaire. Et si vous incluez les exonérations de cotisations sociales, vous avez 30 milliards de plus. Donc 130 milliards auxquels on rajoute 25 milliards et on va nous dire qu'il n'y a pas eu de baisse d'impôts.
Bon, j'ai peur qu'on se noie sous les chiffres. Parlons de l'économie réelle, très concrète. Est-ce que la suppression de la partie mobilière, c'est-à-dire sur le capital mobilier des fortunes, est-ce que cette suppression a été efficace ? Moi, je pense que oui. La preuve, c'est que si vous prenez les licornes sont les entreprises valorisées plus d'un milliard d'euros ou de dollars, qui sont notamment, alors vous avez Deezer, vous avez Doctolib, vous avez Mano Mano, vous avez Blablacar, etc. Est-ce que ces entreprises-là ont quitté la France ? Aucune. Sur les 20, 22 licornes. Dans toutes les époques précédentes, ils étaient partis, pour certaines d'entre elles, aux États-Unis.
Et vous y voyez l'effet de la politique fiscale.
Sans aucun doute. Alors là, il n'y a aucun doute. Et quand vous parlez à des spécialistes, ils vous expliquent que la multiplication des start-up en France, d'un écosystème, comme on dit, eh bien, c'est lié aussi au fait qu'ils n'ont pas d'inquiétude sur ce sujet-là.
Thomas Porchet.
Non. Alors, bon, déjà, les rapports ont dit l'inverse. Il y a même un article dans un très bon journal qui s'appelle Les Échos qui disait que l'effet était mitigé et qu'il n'y avait pas d'impact direct sur l'investissement. Or, le but de la réforme de l'ISF, vanté par Emmanuel Macron, et d'ailleurs, il avait dit au moment des Gilets jaunes qu'il allait revenir dessus, ça ne marchait pas, c'était que, comme on taxait moins les riches, ils allaient investir. Il n'y a pas eu d'impact direct sur l'investissement.
Vous voyez un peu moins les rapports.
Non,
et un peu
laissez-le finir.
Je vois l'économie réelle et je vous dis une chose, c'est que le seul impact positif qu'il y a eu, c'est qu'effectivement, il y a eu, soit, nous dit-on, plus de riches qui sont revenus en France. Mais ce mouvement a eu lieu à partir de 2014 en France, 2015, avant même qu'il y ait cette réforme de l'ISF. Donc, est-ce qu'on peut attribuer au fait que les riches reviennent parce qu'ils sont moins taxés ? C'est pas sûr.
Répondez-lui, Dominique.
Je vais vous dire, en fait, que sur un terrain auquel personne ne pense jamais, les impôts des riches, les plus aisés, ont augmenté. Vous savez,
En France, sous Emmanuel Macron.
Oui, absolument. pour un certain nombre de plus aisés. L'impôt sur le barème de l'impôt sur la fortune, il est gelé depuis 2012. Et donc, tous ceux qui ont des biens immobiliers à Paris, dans les grandes villes, etc., le barème est gelé depuis 2012. Voilà, c'est 800 000 euros le niveau de taxation. Donc, c'est ce qu'on appelle une hausse d'impôt, alors que alors qu'il y a évidemment de l'inflation. Deuxième élément, pour l'impôt sur le revenu, quand on parle de l'impôt sur le revenu, il y a le barème, mais il y a aussi une surtaxe qui a été créée, je crois que c'était par Nicolas Sarkozy, au-delà de 250 000 euros par part, ce qui est énorme évidemment, oui. Une surtaxe de 3 ou 4%. Ce point d'entrée de 250 000 euros n'a pas bougé depuis 2012, une quinzaine d'années. Là encore, pour 50 000 contribuables, l'impôt sur le revenu a augmenté.
Alors, restons du côté des contribuables et des particuliers. Justement, Thomas Porcher, Gabriel Attal a assuré que 10% des contribuables à l'impôt sur le revenu payaient 70% du produit total. C'est vrai ?
Oui, c'est vrai, mais alors...
C'est faux.
Non, mais déjà, il faudrait que Attal, Monsieur Attal, le Premier ministre, n'oublie pas que les pauvres payent des impôts. Ils payent de la TVA, qui est quand même l'impôt le plus rentable. Ils payent de la TICPE, de la CSG, de la CRDS, des cotisations. D'accord ? Alors certes, ils échappent à certains impôts, en partie l'impôt sur le revenu, normal, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais ils ne payent pas aussi l'ISF, hein, Dominique, ils ne payent pas l'ISF, ils ne payent pas les droits de succession parce qu'ils ont moins de 100 000 de succession. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'impôts qu'ils n'arrivent pas à payer. S'ils gagnaient plus d'argent, peut-être qu'ils les paieraient.
Alors, Dominique, 10% des contribuables pour l'impôt sur le revenu en payent 70% du produit total.
Non, c'est faux, c'est 75%. C'est faux.
75.
Les 10% des contribuables les plus importants à l'impôt sur le revenu payent 75% de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire qu'en fait, vous avez 10% des contribuables qui payent, il faut être très concret, 60 milliards d'euros. Ils payent 60 milliards d'euros sur les 80 milliards de l'impôt sur le revenu. Si vous prenez les 1% des contribuables les plus élevés à l'impôt sur le revenu, ils payent chacun en moyenne 70 000 euros. Si vous prenez les 2%, ils payent 40 milliards d'euros, avec un taux donc qui est de l'ordre qui est de 58%, puis le taux du barème 45%, plus les surtaxes que j'évoquais et la CSG. Donc l'impôt est très concentré, l'impôt sur le revenu est très concentré. Et donc, il est difficile d'augmenter encore cet impôt sur le revenu.
Même s'il est donc nécessaire, ça veut dire inévitable, Thomas Porcher. On se souvient de l'expression TINA, comme disait Margaret Thatcher en Grande-Bretagne. Il n'y a pas d'alternative, there is no alternative. Je le prononce en bon français. Est-ce que c'est un bon usage des impôts de les augmenter pour combler des déficits et des dérapages spectaculaires des dépenses publiques ?
Le vrai problème, oui, il le faut. Mais le vrai problème... Bien sûr qu'il le faut, mais le problème, c'est la justice fiscale. C'est que tout le monde a compris, aujourd'hui, qu'il y avait des stratégies d'évitement pour les très très riches, que les grandes entreprises arrivaient, via des prix comptables, à aller payer leurs impôts là où il y avait très peu de fiscalité. Et ce petit jeu existe aussi en Europe. Et il faudrait peut-être que nos politiques, il y a deux politiques qui vont intervenir après, s'y penchent. Et qu'il y a un certain nombre de scandales. Par exemple, M. Cahuzac, qui était ministre du PS, du budget, qui avait un compte en Suisse, les Panama, les Pandora Papers, les Open Lux. Il y a un certain nombre de scandales qui montrent qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui ne payent pas leur impôt et qui n'ont pas une juste contribution au modèle social français. Et ça, c'est un vrai scandale.
Dominique, ce TINA, et pourtant, est-ce que c'est un bon usage des impôts que de les utiliser pour combler un dérapage des dépenses publiques ?
Je pense qu'il faut, oui, avoir une réflexion au niveau européen et plus qu'une réflexion et de l'action sur la taxation des plus aisés, c'est-à-dire 0,0001, c'est-à-dire les 70, par exemple, milliardaires, ce qu'on veut, mais ça peut se faire qu'au niveau européen. Des choses sont en train de bouger, j'ai vu qu'il y avait des projets au niveau européen, et donc il faut, c'est dans ce cadre-là que ça peut se faire, mais encore une fois, tout ça, ça occupe beaucoup du débat public, c'est très français. Je vois qu'il n'y a pas d'impôt sur la fortune dans aucun autre pays européen, sauf l'Espagne. Ça concerne 22 000 personnes, à ma connaissance. Oui. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Et ça ne rapporte que très, très peu d'argent. En revanche, oui, sur les paradis fiscaux, sur les fuites, sur l'optimisation qui devient de l'abus, évidemment, un certain nombre de choses doivent être faites. Mais ça, c'est de la technique, c'est moins politique, et évidemment, dans ce cas-là, ça n'intéresse plus personne.
Et on est dans un moment très politique, c'est la fin de ce premier débat fiscal, en l'occurrence, en pleine campagne européenne. On aura l'occasion de le reprendre et d'en parler. Merci Dominique Seux, merci Thomas Porcher. Merci.